Où sont passés les Romains? À la découverte de Muséal.
Bonjour, où sont passés les Romains s'intéresse aujourd'hui à la mythologie dans les tragédies romaines. Cette année, au pôle archéologique départemental muséal, le théâtre antique est objet de toutes les attentions. Chantier de restauration, exposition temporaire. Cela nous amène à réfléchir sur ce qui se jouait dans cet édifice il y a environ 2000 ans et sur quoi ces représentations s'appuyaient sur la mythologie. On en parle après quelques informations pratiques avec Thierry Lyotard, il est professeur de lettres classiques. Voyons pour le moment ce que nous propose le planning de Muséal. Premier appel, Muséal a repris ses horaires de croisière, c'est-à-dire ouverture tous les jours, sauf mardi et jeudi, de 13h30 à 17h30. Sauf pendant les vacances scolaires de Toussaint, où Muséal sera à nouveau ouvert tous les jours aux mêmes horaires, 13h30, 17h30. D'ici les vacances scolaires de la Toussaint, notez deux événements. Le premier, une rencontre avec Audrey Saison, archéologue au pôle archéologique départemental sur les dernières découvertes au théâtre antique d'Alba. Audrey Saison a été responsable du suivi de chantier de restauration qui vient de se terminer. Et quand on restaure, on découvre des choses. Alors rendez-vous pour en savoir plus le samedi 10 octobre à 19h à Muséal. Autre événement, Cirque Alba, avec la cascade. Deux jours de spectacle circassien gratuit pour oublier l'annulation du festival de cet été. On y verra entre autres John et Lennon et la compagnie Les Sœurs Goudron. Programme complet sur lacascade.org. Ensuite, ce sera l'heure des vacances scolaires. Et à Muséal, vacances scolaires rime avec atelier divers. Pixels à la maison, pop-up antique, colonnes d'argile, bavardage d'objets. Les parents n'ont qu'à bien se tenir. C'est chaque jour de la semaine du 19 au 30 octobre à 14h et 16h15. Participation 6 euros, réservation fortement conseillée. Encore 3 rendez-vous. Dimanche 18 octobre à 15h30, promenade guidée autour du site. Participation 4 à 7 euros. Lundi 19 octobre, spectacle jeune public et moins jeune, vous voulez rire, par les frères Duchoc, un duo de marionnettistes. Deux chocs qui fait intervenir tout un monde animal dans un castelet fabriqué en matériaux de récupération. Ce sera à 17h30, lundi 19 octobre, et c'est à voir dès 3 ans. Enfin, mardi 21 octobre, atelier de lecture théâtrale pour ados et adultes, la comédienne Judith Levasseur vous invite à vous essayer autour de La guerre de Troie n'aura pas lieu de Jean Giraudoux. C'est à partir de 13h30, prévoyez 3 heures et de réserver. Enfin, rappelons que Muséal ouvre ses portes aux tout-petits et à leurs parents pour un moment de massage et de relaxation. C'est avec Elsa Johannard, sophrologue et réflexologue. Plusieurs rendez-vous sont prévus, les 1er, 26 et 29 octobre. Renseignements et réservations auprès de Muséal. Arrêtons-nous à présent sur le thème de la mythologie dans les tragédies romaines. Tragédie jouée par exemple au théâtre antique d'Alba Elviorum. La mythologie y était-elle présente? Mythologie grecque ou romaine? Thierry Lyotard, professeur de lettres classiques, nous éclaire sur ces questions en commençant tout d'abord par donner une traduction de ce qu'on peut appeler mythologie.
Bah, peut-être que l'équivalent qui serait le plus clair pour tout le monde, ça serait de parler de religion au fond. Parce que la mythologie gréco-romaine, c'est ni plus ni moins que la religion gréco-romaine. C'est l'ensemble des connaissances relatives au monde divin et à ses interventions dans le monde humain. Sachant que dans l'Antiquité, il n'y a pas de livre en fait, il n'y a que des traditions orales. Et c'est ça que signifie le mot mythos en grec, c'est simplement la légende, la tradition orale rapportée. Ça veut dire que pour connaître le monde des dieux, les anciens n'avaient pas de source unique à laquelle ils pouvaient se rapporter. Il y avait en fait tout un ensemble de traditions, de contes et légendes qui pouvaient varier selon les régions et selon les auteurs qui en présentaient leur propre version. Et
est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a autant une mythologie grecque qu'une mythologie romaine? Ou est-ce que finalement, vous avez dit tout à l'heure, gréco-romaine?
Alors oui, on dit souvent gréco-romaine parce qu'en fait, les Romains ont repris un grand nombre de traditions des Grecs. Ils ont par contre leur propre version de certains dieux. Ils ont aussi des dieux qu'ils privilégient par rapport à d'autres. On pourrait citer par exemple le cas d'Apollon, qui est un dieu assez typiquement grec et qui n'a jamais vraiment été très important pour les Romains. Et inversement, on a un dieu comme Arès, le dieu de la guerre pour les Grecs, qui n'est pas un dieu de premier plan, qui est même plutôt un dieu très à part des autres dieux. Les Grecs disaient c'est le dieu qui n'est pas dieu, c'est le théos athéos, le dieu très à l'écart des autres, qui est unanimement détesté parce que c'est le dieu de la guerre brutale. Et Mars, chez les Romains, qui est supposé être l'équivalent d'Arès, en fait c'est un dieu bien mieux considéré que son équivalent grec. En plus d'être le dieu de la guerre, il est aussi le dieu des jardiniers, le dieu des jardins, le dieu des protecteurs des moissons. Et au fond, la guerre qu'on mène contre les hommes, les Romains la voient aussi comme étant une guerre contre les parasites et contre les maladies. Et pour cela, ils se tournent vers le dieu de la guerre, qui est beaucoup plus bienfaisant pour eux qu'il ne l'était pour les Grecs. Donc il y a des variantes. En dehors de ça, certains dieux sont vraiment tout à fait identiques pour les Grecs et pour les Romains.
Alors finalement, dans les tragédies romaines, on retrouvait la mythologie grecque.
Oui, c'était en fait la base essentielle de ces textes, même si on sait qu'il y avait des tragédies qui reposaient aussi sur des sujets historiques. On sait par exemple que la toute première tragédie romaine à avoir été représentée, elle avait un sujet historique qui renvoyait à la fondation de Rome. C'était l'histoire du rapt des Sabines, l'enlèvement par les Romains d'épouses dont ils avaient cruellement besoin, et le fait que cette opération de razzia se terminait en fait par la fusion des deux peuples, le peuple romain qui venait de se constituer et le peuple sabin qui était son voisin. Beaucoup de pièces étaient sur des sujets mythologiques, mais il y avait aussi d'autres sujets parfois, comme des sujets historiques.
Alors qu'est-ce qu'on jouait finalement par exemple au théâtre antique d'Alba la Romaine ? On joue quoi ? Des tragédies romaines ? Des tragédies gréco-romaines ?
Certainement un peu un mélange de tout cela, parce qu'on sait que les Romains étaient au fond très attirés par la culture grecque, bien qu'ils aient été vainqueurs des Grecs sur le plan militaire. Et du coup, on a souvent développé cette image des Grecs vaincus qui ont finalement triomphé de leurs conquérants. La Grèce vaincue a vaincu son vainqueur, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire que les Romains étaient très conscients de leur sentiment d'infériorité sur le plan culturel et regardaient vers la Grèce avec beaucoup d'admiration et d'envie. Et on pourrait dire que la culture grecque, c'est un peu le Hollywood de l'époque. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez au cinéma, dans 9 cas sur 10, vous verrez un film américain. Ben là, c'est pareil. Je pense que les spectateurs du théâtre d'Alba, dans 9 cas sur 10, voyaient soit des pièces grecques, alors directement en grec, parce que on sait que dans les milieux un peu cultivés de l'Empire, on parlait le grec couramment. C'était un peu comme l'anglais d'aujourd'hui. Hein. Il est fort possible qu'on ait représenté des pièces en grec et le public pouvait suivre directement dans cette langue qui n'était pas la sienne mais qu'il connaissait quand même assez bien. Et parfois, il pouvait aussi voir des pièces qui étaient des reprises de pièces grecques mais traduites en latin, adaptées. Puis on sait qu'il y a aussi des pièces typiquement romaines qui ont été représentées. Le problème aussi étant qu'on est au courant de l'existence de beaucoup de pièces, mais malheureusement, on a le texte que d'un tout petit nombre d'entre elles, et principalement en fait d'un auteur qui nous est à peu près bien parvenu, qui est Sénèque. Sénèque, le philosophe, qui a écrit des pièces de théâtre, et pour nous, c'est lui essentiellement le représentant de la tragédie romaine. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la littérature antique, et le théâtre antique, c'est à peu près 10 siècles de tradition, bah, sur ces 10 siècles, nous, on a vraiment une toute petite quantité de textes qui nous sont parvenus. En fait, il y a eu une énorme perte à cause des destructions du passage du temps. Les pièces qui n'étaient pas véritablement considérées comme des chefs-d'œuvre avaient peut-être une carrière qui durait quelques années, mais très vite, en fait, elles tombaient dans l'oubli.
Thierry Liotard, est-ce qu'on allait au théâtre il y a 2000 ans dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui, avec les mêmes attentes?
Lorsqu'on va au théâtre, en fait, on va voir une histoire qu'on connaît déjà. Ça, c'est très différent par rapport à ce qu'est le théâtre aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez au théâtre dans l'espoir de voir quelque chose de nouveau, une histoire nouvelle qui va vous surprendre. C'est pas le cas du tout dans l'Antiquité, où on va voir, en fait, des histoires dont on connaît déjà la fin. Quand on voit l'histoire d'Édipe, par exemple, tout le monde sait qu'à la fin, il va découvrir le terrible crime dont il s'est chargé, avoir tué son père et couché avec sa mère, et qu'il va se crever les yeux. Il n'y a pas de suspense là-dessus. Les spectateurs du théâtre antique ne cherchent pas à être surpris. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés par les variantes qui peuvent être présentées. Et par exemple, Eschyle, Sophocle et Euripide, on a conservé de ces trois auteurs une pièce de chacun d'entre eux qui porte sur le même sujet. C'est l'histoire d'Électre, vous savez, la fille d'Agamemnon, qui va pousser son frère Oreste à le venger, bien que le meurtre dont il va falloir qu'Oreste se charge, c'est celui de sa propre mère. On a trois des grands auteurs tragiques grecs qui ont traité ce sujet. Même chose, on a chez Sophocle l'histoire d'Édipe et chez Sénèque, dans le domaine latin, la même histoire qui est racontée. Les spectateurs étaient intéressés par les variantes qui pouvaient être présentées et dans une certaine mesure, il n'y avait pas de vérité absolue. Aujourd'hui, si vous racontez l'histoire de Jésus, par exemple, même s'il y a des variantes entre les différents évangiles, vous avez quand même un texte qui vous dit ce qui est supposé s'être passé. Il n'y avait pas ce genre de choses dans l'Antiquité, et donc chacun peut apporter une version assez différente de la même légende, du même mythe. Et on sait que les spectateurs de l'Antiquité étaient très friands de cela. C'était des gens, au fond, très éduqués, qui venaient voir une histoire qu'ils connaissaient déjà, mais dont ils étaient capables d'apprécier des petites variantes, des petites variations, qui nous paraîtraient aujourd'hui peut-être un petit peu sans intérêt, mais c'était le goût du public à cette époque-là.
Thierry Lyotard, professeur de lettres classiques, répondait à nos questions pour « Où sont passés les Romains ?» Où sont passés les Romains ? C'est terminé. Pour aujourd'hui, on se retrouve les 4e vendredis de mois à 18h et le lendemain, le samedi, à 12h30. Et puis si vous avez manqué la charrette romaine, rendez-vous sur 3astérix.fréquence7.net au menu Replay.